Bonsoir, comment allez-vous ? Cette semaine, dans le TGV, avant le départ du train, un monsieur très chic est arrivé et a dit sur un ton très péremptoire à une dame déjà bien installée qui avait l'âge d'être sa mère « Madame, vous êtes assise à ma place !» Il avait raison, elle s'était trompée. Elle a déménagé sans histoire. La question que je me pose, c'est pourquoi donc ne lui a-t-il dit ni bonjour, ni bonsoir, ni pardon, ni il me semble ? Pourquoi n'a-t-il pas ébauché la moitié d'un sourire ? Qu'est-ce que ça lui aurait coûté à lui ? Et si elle lui aurait tant donné à elle, déjà un peu perdue ? Le sourire est gratuit. Avoir des cadeaux gratuits à portée de main et ne pas en profiter, ce n'est pas un bon calcul. Pourtant, cet homme avait une tête à savoir compter. À propos de compter, tout à l'heure, j'ai fait un cadeau de mariage par Internet. Paiement par carte bancaire, c'est pratique. On clique sur la somme qu'on veut mettre et zou. Il y a un espace pour écrire un petit mot et signer. Au moment de finaliser l'achat, cette phrase est apparue sur mon écran. Si vous voulez que les mariés reçoivent votre petit mot, c'est 2,99€.
Bonjour, je m'appelle Odile en Genève. Je voudrais savoir le nombre le plus grand auquel l'homme a donné un nom.
Alors, Odilon, peut-être que la réponse est dans le grand roman des maths édité chez Flammarion que vous avez écrit, Michael Launay. On s'en doute un peu, vous êtes normalien, mathématicien.
Oui, bonjour Odilon. Alors c'est vrai que la quête des grands nombres, c'est quelque chose qui a très longtemps fasciné les mathématiciens qui cherchaient jusqu'où on peut aller. Et puis il y a derrière cette quête des grands nombres, évidemment, une quête derrière de l'infini qui peut se trouver. D'ailleurs, les mathématiciens ont aussi étudier les différents infinis, comment est-ce qu'on peut étudier l'infini par les mathématiques. Ceci dit, si on s'intéresse aux grands nombres qui ont des noms, c'est-à-dire ceux vraiment qu'on a étudiés, parce qu'effectivement, sinon, des nombres, il y en a une infinité, on peut toujours aller plus loin, mais ceux qui servent à quelque chose d'une certaine manière, on connaît évidemment le 1000, le million, le milliard, après on peut aller au billion, au billiard, mais tous ces nombres-là, finalement, ils sont assez petits vis-à-vis des nombres que les mathématiciens ont pu rencontrer dans leurs recherches. Par exemple, il y a un mathématicien qui, au début du XXe siècle, a donné un nom à un nombre qui s'écrit avec un 1 suivi de 100 zéros derrière. Alors ce mathématicien, il s'appelait Edward Kästner, et ce nombre, il a appelé ça le nombre Google, parce que il a demandé à son petit-neveu de nommer ce nombre qu'il venait de trouver. Et puis son petit-neveu, qui était tout petit, a répondu comme ça, Google, un peu au hasard. Et il faut savoir que c'est ce nombre-là qui ensuite a donné son nom au fameux moteur de recherche qu'on utilise sur Internet. Donc c'est un 1 suivi de 100 zéros, c'est absolument gigantesque comme nombre. Pour donner une idée d'à quel point c'est gigantesque, si on essaye de calculer le nombre entier de particules élémentaires qu'il y a dans l'univers visible, c'est-à-dire tout l'univers qu'on voit depuis la Terre en regardant les étoiles, les galaxies, tous les amas, les nébuleuses, etc. qu'on voit dans le ciel, eh bien ça, on peut voir des objets jusqu'à 13 milliards d'années-lumière depuis la Terre. Et si on compte toutes les petites particules élémentaires, c'est-à-dire vraiment quelque chose de minuscule qu'il y a dans cet univers, c'est un 1 suivi de 80 zéros. Donc quand on est à 1 suivi de 100 zéros, eh bien on est beaucoup plus grand que le nombre de particules élémentaires qu'il y a dans tout l'univers visible, dans tout ce qu'on voit dans le monde.
Ça me fait mal au ventre.
Donc ça, c'est voilà, c'est vraiment un nombre qui est gigantesque, mais il faut savoir que les mathématiciens sont encore allés plus loin. Par exemple, il y a des mathématiciens qui ont nommé un nombre qui s'appelle le Googleplex, donc qui va plus loin que le Google, c'est-à-dire que c'est un 1 suivi d'un nombre de zéros qui est égal au Google. C'est-à-dire un nombre de zéros qui déjà, le nombre de zéros qu'il faut pour écrire ce nombre est déjà plus grand que le nombre de particules élémentaires qu'il y a dans l'univers. Donc autrement dit, ce nombre-là, si on veut l'écrire en entier, l'univers n'est pas assez grand pour l'écrire, ne serait-ce que pour l'écrire, même pas pour compter jusqu'à celui-ci.
C'est encore plus mal au ventre qu'avant.
Et ensuite, il y a dans les mathématiques certaines théories qui permettent quand même d'aller encore plus loin. C'est notamment ce qu'on appelle la combinatoire. La combinatoire, c'est quand on compte différentes combinaisons d'objets. Par exemple, si on prend un jeu de cartes et qu'on le mélange, on peut se demander de combien de façons différentes on peut mélanger un jeu de cartes. Eh bien ça, il se trouve que c'est, si on le calcule, c'est à peu près égal à un 8 suivi de 67 zéros. Donc c'est déjà un nombre qui est absolument gigantesque. Et puis si on augmente le nombre de cartes ou si on obtient des nombres encore plus grands de combinaisons, eh bien on peut aller sur des choses qui sont beaucoup plus grands que le Google ou que le Googleplex. Et en particulier, le nombre qui est réputé être le plus grand en mathématiques à avoir servi à quelque chose, c'est un nombre qu'on appelle le nombre de Graham, du nom du mathématicien qui l'a découvert, Ronald Graham. Et c'est un nombre qui défie l'imagination, qui est totalement irreprésentable par un esprit humain, mais qu'on peut simplement appréhender par les calculs et par les mathématiques.
Je crois que je vais m'évanouir. C'est hallucinant, mais c'est très étrange quand même, c'est dur, hein ?
Ah oui, ces nombres-là, c'est des choses vraiment qu'on peut avoir que par la pensée, que par le raisonnement, mais un cerveau ne peut pas se le représenter, c'est-à-dire que c'est au-delà de tout ce qu'on imagine dans notre quotidien.
Bah moi, le mien, il cale. Mais ça rend un peu fou parce que c'est tellement grisant, je comprends qu'on s'acharne.
Oui, mais beaucoup de peuples avaient cette quête des grands nombres et ils mettaient aussi derrière beaucoup de symbolique, beaucoup de mystique derrière ces grands nombres qu'ils cherchaient. Oui. Par exemple, les Indiens. En Inde, il y avait une civilisation qui a fait beaucoup avancer les mathématiques dans la vallée de l'Indus et qui, eux, avaient vraiment une fascination pour les grands nombres.
C'est amusant, hein. Vous pouvez réécouter cette réponse sur franceinter.fr ou aussi aller sur le site Micmat avec un S de Michael Launay.
Je m'appelle Renaud, j'ai 42 ans et je voudrais savoir pourquoi solo, sans masque, on y voit flou et avec un masque, on n'y voit pas flou. Merci.
Jean-Claude H., professeur de médecine neuro-ophtalmologie, cette histoire de vision solo, masque et pas masque, demande Renaud.
Eh bien, Renaud, je présume que vous faites de la plongée et donc, il faut savoir que l'œil a trois lentilles. Une qui est la cornée, qui est cette lentille transparente qu'on voit devant l'œil. Et puis, c'est une lentille, mais il y a deux faces, c'est le cristallin, qui, quand on devient vieux, donne la cataracte. La cornée, la première lentille, elle est essentiellement faite d'eau. Et quand on va mettre la cornée dans l'eau, on va annuler son pouvoir de lentille. Parce que l'eau de la mer ou de la piscine et l'eau de la cornée ont la même composition, et sur le plan optique, il n'y a plus d'effet optique. Donc on perd une lentille, donc l'image est floue. À l'inverse, quand on est dans le masque, il y a encore de l'air devant la cornée, donc la lentille garde son pouvoir de lentille, et donc l'image est nette. C'est aussi simple que ça.
C'est tout, d'accord. Et finalement, l'œil, il s'arrange assez bien de l'eau. Physiquement, ça ne l'abîme pas ?
Non, ce n'est pas un gros problème. Vaut mieux de l'eau propre. Hein. Le vrai danger, c'est l'infection. Bon, en particulier dans les piscines.
Ouais, parce qu'il y a beaucoup
de cochonneries. Moi, je préfère les petites lunettes parce qu'il y a plein de virus, plein de choses et que l'œil peut être fragile à ça. Alors, on peut avoir des lentilles spéciales pour protéger ses yeux. Les plongeurs sous-marins, mais militaires, avaient ça. Il y a très très longtemps, ils avaient des lentilles de contact spéciales pour protéger leurs yeux quand ils allaient faire des missions sous-marines.
Dans les petits bateaux ce soir, nous saurons quelle est la différence entre l'huile que l'on met dans les moteurs et celle que l'on met dans les salades. Nous saurons pourquoi on n'est pas capable de dire à nos parents ce que l'on pense. Et nous saurons aussi s'il y a encore des loups dans les forêts. Je vous livre les questions telles qu'elles nous ont été posées au petit bateau.
Cours, camarade. Le vieux monde est derrière toi. Les barricades, les voltigeurs et puis quoi? Cours, camarade. Les épaves de pavés, les bousculades, les cocktails et puis après. Cours, camarade. Le vieux monde sent la poussière. Dernière ruade. Et on l'enterre à Nanterre. Cours, camarade. Redis-nous ton beau discours sur ton estrade, le poing levé, le cœur lourd, camarade. Le vieux monde reprend son souffle, quelques décades. Et tu rentres dans ses pantoufles. Cours, camarade. Tes affiches et tes slogans, comme tu les brades, pour vendre des brosses à dents. Cours, camarade. le vieux monde t'a rattrapé. Il est malade, tout prêt à agoniser. Camarade, comme tu en crèves avec lui, t'as des bandades comme on en crève aujourd'hui.
Camarades, c'était Alex Baupin.
Les petits bateaux sur France Inter.
Vous avez peut-être vu il y a une dizaine de jours cette tête de loup trouvée en Sibérie, vieille de 40 000 ans.
Bonjour, je m'appelle Zoé. Je voudrais savoir s'il y a encore des loups dans la forêt. Au revoir.
Bonjour, je m'appelle Léonie, j'ai 4 ans. Est-ce qu'il y a des loups dans la forêt? Merci.
Léonie, Zoé, est-ce qu'il y a encore des loups dans la forêt? Demande-t-elle Geneviève Carbone, vous êtes ethnozoologue.
Bonsoir Zoé, bonsoir Léonie. En fait, il y a toujours eu des loups dans la forêt, il y a toujours des loups dans les forêts, mais ça dépend des endroits. Il faut que le loup soit protégé dans les pays où on a encore des forêts. Et il en a été détruit abondamment, ce qui fait qu'il y a, dans certaines forêts, il n'y a plus de loups. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le loup ne vit pas qu'en forêt. Ça fait partie, c'est vrai qu'il utilise la forêt, mais il n'est pas présent qu'en milieu forestier. On le trouve absolument partout, y compris dans les déserts, dans les franges désertiques, dans les steppes, dans les prairies, dans les plaines, dans les broussailles. Le loup n'a pas besoin de la forêt pour être. Simplement, dans notre imaginaire collectif, la forêt, c'est ce lieu du sauvage. Hein. La forêt, ça vient de Silva. C'est ce qui a donné le sauvage. Donc, ce qui, pour nous, est extrêmement sauvage, on le met dans la forêt.
Il me semblait, Geneviève Carbone, que le loup, avec sa grosse fourrure, était un animal de pays froid.
Alors, sa grosse fourrure va autant le préserver du froid que du chaud.
Ah.
Donc, il peut s'adapter aux deux endroits, aux deux types de milieux, même si, effectivement, dans les pays chauds, il est beaucoup plus rare. On n'a pas de loup en zone tropicale. Par exemple, on n'a pas de loup dans la forêt tropicale, dans la jungle. Et on n'a pas non plus de loup en dessous des déserts subsahariens. Mais il est vraiment dans les marges, il y a existé.
Mais il peut vivre en plaine, parce qu'en plaine, en fait, il vit là où il a mangé, j'imagine.
Le loup n'est pas bête, même si c'est un animal. Comme toutes les espèces, il est capable de vivre aux endroits où le milieu est porteur. C'est-à-dire qu'il va trouver suffisamment d'espace disponible pour exister. Il va aussi trouver suffisamment de proie pour pouvoir se nourrir lui et ses descendants. Parce qu'en fait, un loup, ça ne vit pas seul. Ça vit dans une famille qu'on appelle la meute. Et la meute, c'est juste un papa et une maman qui se reproduisent et qui ont des petits. Et donc, il faut qu'à chaque fois qu'il s'installe quelque part, il puisse trouver, lui, de quoi survivre, mais aussi de quoi assurer la pérennité de ses descendants.
Donc, le loup vit là où il a à manger, aussi bien dans le froid que dans le chaud, même s'il ne vit pas dans le très chaud. Et la forêt n'est pas obligatoire. Mais enfin, ça lui plaît, non, quand même? Est-ce qu'on sait ce qui lui plaît?
Il y a beaucoup d'herbivores en forêt. On a le cerf, on a le sanglier, on a le chevreuil. C'est un endroit où, parce qu'on y pénètre moins, parce qu'on n'y vit pas en permanence, un certain nombre d'espèces animales, qu'elles soient prédatrices ou qu'elles soient proies, donc herbivores ou carnivores, continuent à y vivre. Ce sont des espèces qui ne sont pas toujours inféodées, c'est-à-dire elles n'ont pas toujours besoin que de la forêt pour vivre, mais étant donné notre pression sur les milieux naturels, ce sont des endroits où elles se sont réfugiées. Donc, de fait, leurs prédateurs aussi peuvent y vivre. Parce qu'il y a toute la chaîne alimentaire qui se reconstitue.
Il y a quelque temps, en faisant du tri chez moi, je tombe sur un morceau de papier avec une écriture d'enfant, genre CP. Alors j'étais attendrie, je lis, d'autant que je vois écrit « Maman ». Et je vois avec cette écriture de très jeune enfant « Maman méchant, maman caca, maman pourri, maman caca ». Ça a le mérite d'être clair, c'est bien de savoir écrire, ça permet de s'exprimer.
Bonjour, je m'appelle Carmen, j'ai un enfant et j'appelle de Madrid. J'aimerais savoir pourquoi on n'est pas capable de dire ce qu'on pense aux nos parents. Merci, au revoir.
Bonsoir Carmen, que pensez-vous de cette question, Elisabeth Brami, auteure pour jeunesse et pour adultes, j'allais dire pour jeunesse et vieillesse,
oui,
chez Pocket, chez Talent au Seuil. Et que pensez-vous de cette question de Carmen?
Je la trouve très intéressante parce que je pense que, Carmen, tu t'es aperçue qu'en fait, les grandes personnes non plus n'arrivent pas à tout dire. Tu as compris qu'à certaines questions que tu poses depuis que tu es petite, les grandes personnes ne trouvent pas de réponse ou bien se défilent complètement. C'est-à-dire le genre, je suis très pressée, je peux pas te répondre, quand tu seras grand, enfin je sais pas, des trucs comme ça. Tout dire à ses parents, d'abord pourquoi faudrait tout dire ? Et puis tout dire, ça veut dire quoi ? Tout dire, sûrement pas. On n'a pas besoin de tout dire. Il y a des moments d'ailleurs, quand on est enfant, où on a un moment de haine énorme, on déteste ses parents. Mais on sait bien que c'est pas la peine de le dire, parce que on se sent un peu monstrueux de l'avoir pensé, donc évidemment, on ne va pas le dire, et puis ça ferait de la peine. On sait quand on est petit ce qui fait de la peine aux parents et ce qui les dérange. Ce tout dire n'est pas nécessaire. En plus, les parents n'ont pas toutes les réponses. Et en plus de ça, il y a quelque chose qui s'appelle le droit au secret et à l'intimité et à la chambre intérieure qu'on a dans soi, qui est absolument fondamental. Chacun doit abriter en soi quelque chose qui lui appartient complètement. Il y avait une psychanalyste, Françoise Dolto, qui disait cette chose formidable. Elle avait beaucoup appris d'une gouvernante qui lui avait dit, quand elle avait 4 ans, « Tu as le droit de penser non, mais si on te dit de dire oui, il faut que tu dises oui. » Et elle s'était aperçue qu'en fait, oui, elle avait le droit de tout penser, toutes les horreurs dans sa tête, et que c'était une grande liberté. Ça s'appelle la liberté de penser. Et quand on est grand, on arrive à le dire et à l'écrire. Rassure-toi, tu y arriveras.
Je vous renvoie au très joli et très intéressant petit livre qu'Elisabeth Brami a écrit chez Pocket Jeunesse.
Pois o samba está animado, o que eu quero é samba. Este samba que é misto de maracatu, é samba de preto veio, samba de preto du. Mas que nada, um samba como este é tão legal. Você não vai querer que eu chegue no final. Pois o samba está animado, o que eu quero é samba. Este samba que é misto de maracatu, é samba de preto veio, samba de preto du. Mas que nada, um samba como este é tão legal. Você não vai querer que eu chegue no final.
Sergio Mendes, Masque Nada. Si vous voulez vous remonter le moral à propos de l'agriculture qui est en souffrance en ce moment, lisez l'histoire vraie, écrite et très bien décrite par Anne Lebé, de ce paysan de 37 ans, David Comette, qui pour conserver sa ferme a d'abord ouvert une boucherie, puis une auberge et enfin un théâtre. Alors voici comment ça se passe. Autour d'un repas, avec des vrais bons aliments, poussés et grandis au vrai soleil dans de la vraie terre, servis par des vrais producteurs, les producteurs eux-mêmes, se produisent des danseuses, des magiciens, des sosies, des chanteuses. Du vrai plaisir, de la vraie joie, qui, vous l'imaginez bien, ne s'est pas montée sans quelques vraies difficultés aussi. Lisez cette histoire, Les Folies Bergères, est éditée aux éditions du Rocher.
Bonsoir, je suis Louise, j'ai 15 ans. J'aimerais bien savoir quelle est la différence finalement entre l'huile qu'on met dans les moteurs et celle qu'on met dans la salade. Merci.
C'est Lydia Bourguignon qui a écrit avec son mari Claude « Le sol, la terre et les champs » qui va vous répondre.
Bonsoir Louise. Eh bien, il y a une grosse différence entre l'huile de moteur et effectivement l'huile de salade. L'huile que l'on met dans les voitures, eh bien en fait, elle vient du pétrole. Et donc, c'est de la matière première, et donc c'est un produit. Après, ça va être transporté, ça va être transformé, mais ça vient du pétrole.
Ça vient du sol quand même.
Ça vient du sol, et ça a des millions d'années. Le pétrole, c'est très très ancien. Donc c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on pose un énorme problème au niveau de cette grande utilisation du pétrole qui commence à manquer, parce que il faut beaucoup beaucoup de temps pour le renouveler. Puisque ça a des millions d'années.
Oui, c'est pas comme une baguette. On l'a mangée, on en refait une pour le lendemain.
Exactement. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de faire un effort sur cette consommation massive de pétrole. En plus, ces huiles de moteur, bon, elles sont... le pétrole, on met pas le pétrole directement dans le moteur de la voiture. Il va être transformé. Et ces huiles, par transformation, elles peuvent être chauffées très, très, très fort. Donc elles ont aussi cet avantage-là. Par contre, ce sont des huiles toxiques. On ne peut absolument pas se nourrir avec ces huiles. Alors que la différence avec l'huile que l'on met dans la vinaigrette, bien entendu, tu comprends que tu peux l'utiliser. Alors comment elle vient ? Eh bien ça, ce sont des huiles qui sont faites par les plantes, par les graines. On fait de l'huile de lin, de l'huile de colza, de l'huile de tournesol, de l'huile de maïs. Et puis, on fait aussi de l'huile d'olive qui est carrément sur le fruit. Et donc ça, c'est les plantes, grâce aux microbes, qui vont synthétiser, qui vont faire ces huiles, ces corps gras. Et on va presser à froid ou à chaud, en fonction de la quantité qu'on veut. Des très très belles huiles, on les fait à froid. Parce que on va moins tirer, mais quand on chauffe, eh bien en fait on va extraire, on va beaucoup plus tirer, donc on va en faire plus. Et ça, c'est des huiles qu'il faut pas trop chauffer et qui sont alimentaires.
Mais en revanche, quand on fait une huile, disons de noisette, le noisetier l'année suivante il en refait des noisettes.
Voilà. En plus, bien sûr, c'est durable. Les arbres sont durables. Donc il y a un côté renouvelable de l'huile. Mais il y a une grosse différence. C'est un végétal, alors que l'autre, c'est une matière première, c'est une énergie ancienne.
Il y en a un qui met 12 mois pour se renouveler, et l'autre qui met 12 000 ans, quoi.
Oui, des millions d'années, des millions.
Plus encore.
Cette émission des Petits Bateaux est à podcaster ou à réécouter sur franceinter.fr. Cet été, nos petits bateaux navigueront en mode rediffusion. En revanche, notre répondeur restera au port. Il faudra attendre le 1er septembre pour lui parler à nouveau. Nous, c'est-à-dire par ordre alphabétique, Jean-Baptiste Audibert, Noël Bréa, Marjorie Devoucoux, Eliane Gérard et Grégory Wallon, nous vous laissons dans les bras de Denis Chessou pour la Tulu Montilou.